Oui, il déconnecte complètement de Tolbiac en disant que l'histoire de Tolbiac, c'est jamais que la répétition, mais ça c'est toujours pareil, la répétition de Constantin au Promilfus. C'est-à-dire, le nouveau Constantin, c'est Clovis, et donc il lui faut la même vision et la même bataille indécise qui devient... voilà, exactement. Et souvent dans l'histoire, c'est comme ça que fonctionnent les légendes. Hein. Et alors, résultat, regardez par exemple, quand la rénovation de l'Empire avec Sylvestre II, qui correspond à Sylvestre Ier, donc Othon avec Constantin aussi. Alors, mais donc l'idée, c'est que du coup, moi j'avais lu ça déjà dans Rouge, où on dit que la conversion de Clovis n'est pas un barbare. Hein, faut pas se le... C'est aussi une des raisons pour lesquelles peut-être les évêques s'étaient intéressés à lui. Déjà, son père était consul. Il avait été, comment dire, enfin, il avait été plus que frotté de culture romaine. Il vénérait les institutions romaines. Donc, en fait, c'était un personnage qui était déjà très marqué par la culture romaine. Et on sait que sa conversion s'est pas faite sur un coup de tête ou de manière autoritaire, etc. Mais au terme d'une très longue enquête où justement les miracles de Saint-Martin ont emporté définitivement les choses. Et il y a la Sainte-Geneviève aussi, qu'il ne faut pas oublier. Alors Sainte-Geneviève, au XIXe siècle, on la présente comme une petite bergère, etc., comme la nouvelle Jeanne d'Arc, enfin l'ancienne Jeanne d'Arc. Mais ce n'est pas du tout ça. Elle fait partie d'une des familles les plus considérables d'un des peuples germaniques. Sachant que dans les peuples germaniques sont matrilinéaires, en fait, sont les femmes qui gouvernent. Les hommes tirent l'épée, les femmes gouvernent. Et puis elle a comment dire, elle est intervenue aussi dans tout ce processus, notamment en attirant l'attention sur Clovis, sur Saint-Martin.
Attention de Clovis sur Saint-Martin.
Oui, oui, oui. Par Saint-Rémy, enfin, etc. Et
sans Geneviève, Clovis n'aurait pas eu.
Oui, oui.
Elle l'a un peu accouché.
Clovis. Oui, oui, oui. On peut dire certainement. Il y a véritablement tout une sorte de nuage qui va produire la France, enfin, disons, la Gaule christianisée. Pas la Gaule christianisée, mais disons, l'État, enfin, la Francia occidentalis, là. Il y a Clotilde, évidemment, l'épouse. Hein. Toutes ces princesses catholiques qui ont converti leur mari arien ou païen. Vous avez raconté l'histoire de Berthe, là, avec un roi anglo-saxon. L'histoire Adélaïde, je crois bien, je ne sais plus. Une princesse bavaroise qui avait converti le roi des Lombards, Clotilde donc avec les Francs saliens, donc joue aussi son rôle Geneviève, Avi, Rémy, vous voyez toute cette Et alors le plus triste dans cette affaire, c'est que les restes de Clovis sont probablement sous la rue Clovis, mais on n'a jamais été capable de les trouver.
Oui, 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 sous la chapelle de
c'est ça.
Lycée Henri IV.
Oui. C'est, voilà,
à côté du lycée Henri IV.
Saint-Étienne-du-Mont.
Allonge Saint-Étienne-du-Mont.
Oui, oui.
Et Clovis, et ils disent aussi Sainte-Geneviève.
Oui, et puis...
Sainte-Geneviève, Clovis et Clotilde.
Oui, voilà. Donc, en fait, finalement, les...
On les trouve pas.
Oui, parce que... Clovis a fait construire un oratoire pour justement pour abriter les reliques de Sainte Geneviève, parce qu'il avait
comme Marie-Madeleine.
Et puis après, tous
C'est comme Marie-Laurent, c'est très bien, c'est assez bon.
Oui,
c'est très enfoncé.
Oui, oui, certainement. Oui. Et puis là, bon, bah, du coup, avec tout ce qui s'est passé à Paris après, on ne trouve pas. Enfin, voilà, donc, sur cette question. Alors, sinon, je vais vous lire aussi un texte que j'aime bien sur un sermon, le sermon 340. Prononcé pour l'anniversaire de son sacre. Oui. À la vérité, alors c'est pour tous ceux qui seraient attirés par l'épiscopat. À la vérité, mais c'est un genre littéraire, parce que Saint Grégoire disait la même chose. À la vérité, depuis que ce fardeau dont j'ai à rendre un compte si difficile est placé sur mes épaules, la pensée de ma dignité me tient constamment en éveil. Toutefois, je m'en sens beaucoup plus pénétré et plus ému quand, en me renouvelant la mémoire du passé, ce jour anniversaire de mon sacre me met si vivement en présence du fardeau dont je suis chargé qu'il me semble arriver pour m'en charger aujourd'hui seulement. Or, qu'y a-t-il à craindre dans cette dignité, sinon qu'on aime plus les dangers qu'elle renferme que l'avancement de votre salut ? Ah, aidez-moi donc de vos prières, afin que le Seigneur daigne porter avec moi ce fardeau qui est le sien. Quand vous priez pour moi, d'ailleurs, vous priez aussi pour vous, car le fardeau dont je vous parle est-il autre chose que vous ? Priez pour moi sincèrement, comme je demande pour vous que vous ne me pesiez pas. Jésus, notre Seigneur, n'appellerait pas ce fardeau léger s'il ne le portait avec quiconque en est chargé. Vous aussi, soutenez-moi et conformément aux préceptes de l'apôtre, nous porterons les fardeaux les uns des autres et nous accomplirons ainsi la loi du Christ. Ah, si le Christ ne les porte avec nous, nous fléchissons et nous succombons s'il ne nous porte. Si je m'effraie d'être à vous, je me console d'être avec vous, car je suis à vous comme évêque, comme chrétien, je suis avec vous. Le premier titre rappelle des obligations contractées, le second la grâce reçue. Le premier des dangers, le second le salut. En accomplissant les devoirs attachés au premier, nous sommes en proie aux secousses de la tempête sur une mer immense. Mais en nous rappelant quel sang nous a rachetés, nous trouvons dans la tranquillité que nous inspire cette pensée comme un port paisible, et tout en travaillant au devoir qui nous est propre, nous goûtons le repos de la grâce faite à tous. Si donc je suis plus heureux d'être racheté avec vous que de vous être préposé, je ne vous en servirai que mieux, comme l'ordonne le Seigneur, pour ne pas payer d'ingratitude celui qui m'a obtenu d'être avec vous son serviteur. Ne dois-je pas aimer mon Rédempteur et ne sais-je pas qu'il a dit à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu ? Paie mes brebis. » Et cela une fois, deux fois, trois fois. En lui demandant s'il l'aimait, il le chargeait de travailler. C'est que plus c'est grand l'amour, moins pèse le travail. Continue. Que rendrais-je au Seigneur pour tous les biens qu'il m'a rendus ? Si je prétends lui rendre en paissant ses ouailles, je ne dois pas oublier que ce n'est pas moi, mais la grâce de Dieu avec moi qui accomplit ce devoir. Comment rendre à Dieu quand pour tout il me prévient ? Et pourtant, si gratuit que soit notre amour, nous cherchons une récompense en paissant le troupeau sacré. Comment cela ? Comment pouvons-nous dire « j'aime purement » afin de pouvoir paître et je demande à être récompensé de ce que je fais. La chose serait impossible. Jamais le pur amour n'ambitionnerait de récompense si sa récompense n'était celui-là même à qui il s'attache. Et si nous lui témoignons, en paissant son troupeau, notre reconnaissance pour le bienfait de la rédemption, que lui rendrons-nous pour la grâce d'être pasteur ? Il est vrai, et à Dieu ne plaise que ceci s'applique à nous, c'est notre malice personnelle qui nous rend mauvais pasteurs. Mais sans sa grâce, et puisse-t-il nous accorder celle-là, nous ne saurions être de bons pasteurs. Aussi, prions-nous et vous commandons-nous, mes frères, de ne recevoir pas en vain non plus la grâce de Dieu. Rendez fructueux notre ministère. Vous êtes le champ que Dieu cultive. Accueillez à l'extérieur celui qui vous plante et vous arrose, à l'intérieur celui qui vous donne l'accroissement. Alors après, il parle justement de tous ces dangers. Il nous faut arrêter les inquiets, consoler les pusillanimes, soutenir les faibles, réfuter les contradicteurs, nous garder des astucieux, instruire les ignorants, exciter les paresseux, repousser les contentieux, réprimer les orgueilleux, apaiser les disputeurs, aider les indigents, délivrer les opprimés, encourager les bons, tolérer les méchants, aimer tout le monde. Puis, alors, les dernières années de sa vie, ça sera même courir au rempart, organiser la défense de la ville contre les Vandales. Sous le poids de devoirs si importants, si nombreux et si variés, aidez-nous de vos prières et de votre soumission. Obtenez que nous soyons moins flattés de vous commander que de vous rendre service. De même, en effet, qu'il est bon pour vous que nous nous appliquions à implorer pour votre salut la divine miséricorde, ainsi faut-il que, pour nous, vous répandiez vos prières devant le Seigneur. Jugerions-nous peu convenable ce qu'a fait l'apôtre et ce que nous savons ? Il avait un si vif désir qu'on le recommandât à Dieu dans la prière, que s'adressant à un peuple tout entier, il lui disait d'un ton suppliant « Priez en même temps pour nous aussi. » C'est dans Colossiens. « Ainsi devons-nous vous dire ce qui peut nous encourager nous-mêmes et vous instruire. S'il faut en effet que nous réfléchissions avec beaucoup de crainte et d'application à la manière dont nous pourrons accomplir sans reproche les fonctions de notre pontificat, vous devez également chercher à accomplir humblement et généreusement tout ce qui vous sera prescrit. Par conséquent, mes bien-aimés, demandons avec une égale ardeur que mon épiscopat profite et à vous et à moi. Il me profitera si je dis ce qu'il faut faire, et à vous si vous faites ce que j'aurais dit. Oui, si nous prions pour vous, et si vous priez pour nous sans cesse et avec l'amour parfait de la charité, nous parviendrons heureusement, avec l'aide du Seigneur, à l'éternelle béatitude. Voilà. Donc, vous voyez, Saint-Augustin, quand même, il est conscient de sa dignité et de sa légère supériorité sur tous les autres. Bon, alors, sinon, il y aura encore bien d'autres choses à dire.
C'est votre prochaine homélie ?
Non, j'ai la filée à l'abbé Rouget. Il pourra dire ça à Nanterre. Et puis, à quelques autres aussi. Mais alors, il y a aussi toute une série de sermons sur les mauvais pasteurs.
Oh, oui. C'est très intéressant.
Oui. Je regarde si par hasard j'en trouve un que j'aurais mis là. J'ai des commentaires de Saint-Jean.
Je ne savais pas que je pouvais faire ce genre de sermon parce que justement il avait. L'Église n'avait pas encore tout le temps. Hein.
Oui, ah bah oui.
C'était
oui.
Sincère, et puis c'était comme ça, voilà. Il y avait absolument.
Oui, oui, bien sûr. Ça, c'est. Mais c'est, en plus, c'était sincère, hein. Il le faisait vraiment. Ah, bah tenez, il y en a un beau qui est autour de Pâques. Oui, ça rejoint un petit peu la doctrine de Civitate Dei, c'est le sermon 148. Notre occupation, enfin, ce n'est que des bouts, hein, parce que, vous savez, saint Augustin, enfin, ses sermons font des. Devaient durer au moins une heure. Hein. Ah oui, c'est des pages entières sur quatre colonnes dans Migne. Alors voilà, donc ce sermon 148. Notre occupation en cette vie, mes frères, doit être de louer Dieu, car cette louange du Seigneur constituera le bonheur de notre vie à venir. Donc c'est un peu comme un noviciat ici-bas de louer Dieu. Hein. Et nul ne peut avoir part à cette vie future s'il ne s'y exerce dès ici-bas. Maintenant donc, nous prions Dieu, mais nous prions aussi. Louer Dieu est une joie, le prier c'est gémir. De grands biens nous sont promis, et nous ne les possédons point encore. Mais comme celui qui nous les a promis est véridique, nous nous réjouissons dans l'espérance, et comme nous ne les possédons point, nous aspirons, nous gémissons. Il nous est avantageux de persévérer dans ce désir jusqu'à ce que les promesses que nous attendons soient accomplies, que notre gémissement soit passé, pour faire place uniquement à la louange. C'est pour désigner ces deux époques, dont l'une se passe dans les amertumes et les tribulations de cette vie, l'autre dans la sécurité, dans l'allégresse éternelle, que nous célébrons deux temps bien différents. L'un qui précède, l'autre qui suit la fête de Pâques. Le temps qui précède Pâques est le symbole des tribulations actuelles. Le temps où nous sommes et qui suit Pâques, non, c'est un serment d'après Pâques, est le symbole de cette félicité dont nous jouirons plus tard. Nous célébrons dès alors, avant Pâques, notre vie actuelle. Et après Pâques, nos fêtes sont le symbole de ce bonheur qui n'est point encore le nôtre. Aussi, l'un de ces temps est-il passé dans le jeûne et la prière, et dans l'autre, nous nous relâchons de nos jeûnes pour chanter les louanges de Dieu. C'est ce que nous marque le cantique « Alléluia », qui en latin signifie « louer Dieu », comme vous le savez. L'un de ces temps précède la résurrection du Seigneur, l'autre la suit et nous marque la vie future que nous ne possédons pas encore. Ce n'est en effet qu'après notre résurrection que nous jouirons des biens figurés par le temps qui suit la résurrection du Christ. Nous avons dans notre chef la figure de ces deux états. Et la passion du Seigneur nous montre ce qu'est pour nous la vie présente, le labeur, la peine et à la fin la mort. Mais sa résurrection et sa gloire nous désignent cette vie qui doit être la nôtre quand il viendra pour rendre à chacun selon ses mérites, des biens aux bons, des châtiments aux méchants. Aujourd'hui, sans doute, tous les méchants peuvent chanter avec nous l'Alléluia. Toutefois, s'ils persévèrent dans leur malice, le cantique de l'Alléluia pourra bien être sur leurs lèvres, mais ils ne pourront obtenir cette vie future qui accomplira en réalité ce que nous n'avons aujourd'hui qu'en figure, parce qu'ils n'auront pas voulu méditer avant son avènement et posséder par avance ce qui était à venir. Maintenant donc, mes frères, nous vous exhortons à louer Dieu, et c'est ce que nous nous disons mutuellement dans ce seul mot « Alléluia ». Louez le Seigneur, dis-tu à l'un. Louez le Seigneur, te répondra l'autre. Et s'exhorter mutuellement, c'est faire dès lors ce que l'on s'exhorte à faire. Mais louez-le de tout vous-même, c'est-à-dire non seulement de la langue, mais de la voix, mais aussi de toute votre conscience, dans toute votre vie, dans tous vos actes. Nous louons Dieu dans l'Église, maintenant que nous y sommes assemblés, et que chacun se retire chez soi. Il semble dès lors interrompre cette louange, mais qu'il ne cesse de bien vivre et il ne cesse de louer Dieu. Cesser de louer Dieu, c'est écarter de la justice et de tout ce qui lui plaît. Si jamais tu t'éloignes du bien, ta langue peut bien se taire, mais ta vie est un chant et Dieu a l'oreille sur ton cœur. De même, en effet, que notre oreille entend notre voix, l'oreille de Dieu entend nos pensées. Donc, vous voyez, c'est un joli texte pour nous pour faire de notre vie un chant de louange à Dieu, y compris dans ces tribulations que nous connaissons ici-bas. Donc voilà, on va peut-être s'arrêter là. Et puis donc la fois prochaine, eh bien je vous parlerai des pères de l'Empire. Alors, la fois prochaine, justement...
C'est dans quel art, tout ça ?
Oui. Ah bah oui, je crois que c'est dans longtemps.
8 novembre.
Ah oui, c'est les vacances, là.
Ça sera le 8 novembre.
D'accord.
Le 8 novembre, parce que le premier, c'est...